c'est bon. Vous savez que nous habitons dans le 9e de Lyon, pas loin de la rivière qui est la Saône. Et puisqu'elle est beaucoup plus douce que le Rhône, qui quant à lui est beaucoup plus difficile de le dompter, vous verrez souvent ceux qui font de l'aviron. Vous connaissez en fait ce que c'est, de l'aviron. Et chaque fois, et même ce matin, je les ai vus, les personnes qui font de l'aviron. Chaque fois que je vois les gens ramant sur la Saône de cette façon-là, je suis impressionné par leur détermination, quel que soit le temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait beau, mais je les ai vus, en fait, à plusieurs reprises, quand il pleuvait, quand il faisait froid, tôt le matin. Que ce soit tôt le matin ou tard dans la journée, je n'ai jamais vu personne en train de faire de l'aviron à moitié. Au contraire, ils font de tout cœur. Cette image simple est une entre autres dont je me sers pour déjà vous aider à entrer dans une réflexion vers laquelle notre texte que nous allons lire et étudier ce matin se penche. Il s'agit du 13e chapitre de l'Épître aux Colossiens. Donc je vous invite à tourner vos Bibles dans ce 3e chapitre aux Colossiens. Et à partir du verset 18, et nous allons lire les versets 18 au 25 et le premier verset du 4e chapitre, mais au fur et à mesure de la prédication. Le texte devant nous, vous allez voir, est une prolongation de l'exhortation du verset 17. De tout faire au nom du Seigneur. Les versets 9 à 16 visent le domaine. Nous avons vu, en fait j'ai fait une prédication sur ce texte ici, mais il y a un an à peu près. Les versets 9 à 16 de ce chapitre visent le domaine qui concerne l'Église, alors que ces versets que nous allons voir ce matin nous mettent dans le contexte de la famille et du travail. La devise qui semble bien résumer les propos ici trouvés dans ces versets serait « Tout pour Christ avec tout cœur ». Oh pardon, « Tout pour Christ de tout cœur ». Commençons avec le premier domaine, la famille. Mais avant de faire cela, nous allons prier ensemble. Donc je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie de ces instants de réflexion sur ta parole. Je te remercie également, Seigneur, pour la présence de ton esprit qui connaît l'esprit de Dieu et qui peut vraiment nous faire comprendre tes pensées de façon à nous transformer. Merci de nous rendre vraiment disponibles à écouter, à avoir les oreilles pour entendre. Pour ta gloire et pour notre bien, afin, Seigneur, que tu sois glorifié. Au nom de ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc les versets 18 et 19, nous allons lire. Tout pour Christ dans le couple. Femme, verset 18, « Soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfant, on va arrêter là, donc ces deux versets, voilà, parce qu'ils concernent le couple. Parler de la soumission n'a pas bonne presse de nos jours, surtout qu'il s'agit de la soumission des femmes vis-à-vis des hommes. » Mais la soumission dont il est question ne devrait pas être comprise avec cette connotation négative. Vous verrez que la soumission n'est pas réservée dans le cadre de la relation du couple. L'Épître aux Éphésiens, verset 21 du chapitre 5, nous dit, c'est un texte parallèle à ces textes de Colossiens, et ce texte parallèle nous exhorte de « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Donc vous voyez, se soumettre à quelqu'un n'est pas propre à la relation homme et femme. Déjà, C'est un point important à signaler. La soumission a sa place clé dans le schéma d'autorité que Dieu a institué afin de conduire à l'harmonie. Je m'arrête là pour ajuster notre idée parfois tordue de la soumission. Quelle est votre réponse à quelqu'un qui cherche à vous faire du bien? Quelle est votre réponse à quelqu'un qui cherche à vous faire du bien? L'a priori est plutôt positif, n'est-ce pas? N'aimons-nous pas qu'on s'occupe de nous, qu'on nous respecte, qu'on nous rend honneur? Mais si, bien sûr. Lorsque l'on agit avec un intérêt bienfaisant envers nous, notre réponse est celle de reconnaissance, de respect, de confiance vis-à-vis d'un tel comportement à notre égard. Vous savez faire sa déclaration de revenus dans deux pays, ce qui est notre cas, est parfois compliqué. Cela prend du temps aussi. Et pour nous, surtout vis-à-vis de notre déclaration au gouvernement américain, parce qu'on fait une déclaration aux États-Unis et une déclaration ici, en France, il y a quelques années, j'ai fait appel à un professionnel, un comptable, expert comptable aux States. Avant, nous faisions tout nous-mêmes et on n'a jamais eu d'ennui, heureusement, mais on n'a jamais eu les mêmes remboursements qu'on l'a eu ces dernières années avec un pro. Ces dernières années avec ce pro nous ont apporté des bénéfices non négligeables, surtout qu'il se connaît très bien quant aux lois sur l'imposition et les lois qui pourraient nous être avantageuses. Quant aux déclarations, je m'y connais un peu pour me débrouiller, mais pas pour m'avantager. De ce fait, faire appel à quelqu'un d'autre est tout à fait approprié, à mon avis. Puisque je lui fais confiance, et cela selon ses compétences, je suis complètement prêt à me soumettre à ses choix pour nous lors de notre déclaration d'impôt. Fixez bien cet exemple en esprit, peut-être un exemple que vous trouvez un peu bizarre, mais fixez bien cet exemple en esprit et je crois que vous aurez une meilleure idée du sens de la soumission dans ce texte. Se soumettre à quelqu'un dont la motivation est de nous aider, nous faire du bien, ce n'est pas si mauvais que cela. En fin de compte, nous le faisons tout le temps. Vous prenez un avion, un train, un bateau, un métro, quand il n'y a pas de grève, pour vous faire parvenir là où vous allez, et vous vous soumettez volontairement aux gens que vous ne connaissez pas même. La femme qui se soumet à son mari entre dans le projet de Dieu en ce qui concerne sa relation avec lui. Lorsque le mari entre dans le même projet à l'égard de sa femme, l'harmonie conçue connaît son expression la plus belle. Le respect de la femme envers son mari ne cesserait d'augmenter lorsqu'elle est convaincue de l'amour sacrificiel qu'il a pour elle. Inversement, l'amour du mari pour sa femme ne saurait pas se confiner lorsque sa femme lui fait preuve de respect et de confiance sans réserve. Parlons de l'amour dont il est question pour un mari envers sa femme. Pour s'y faire, nous allons regarder un texte parallèle encore dans l'Épître aux Éphésiens qui nous élargit le champ visuel sur l'amour. Donc nous allons lire à partir du verset 25 du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Donc chapitre 5 à partir du verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Est-ce que, oui, jusqu'au verset 27. Voici dans ce texte-là le modèle. Le modèle qui sert de référence pour l'amour dont parle Paul quant à la relation mari-femme. Mari-époux-épouse. Il n'y a pas de plus grande expression d'amour que celui montré par Christ. Nous sommes tous d'accord. Cet amour que Christ a montré envers son Église. L'amour du Christ pour son Église, qui est à la fois sacrificiel et bienfaisant, représente le centre de la cible que le mari est censé viser pour son épouse. Lorsqu'un mari se fixe comme but l'expression de ce type d'amour, un amour qui sait aller jusqu'au bout, il se garde d'aigrir sa femme et lui permet au contraire d'y répondre par une soumission vue non pas comme une contrainte ou un fardeau, mais comme une joie et un privilège. Je le crois bien. Une bonne relation de couple dépend d'une bonne compréhension de l'Évangile, où l'amour et le sacrifice de Christ inspirent le vouloir et le faire des deux côtés. Une telle inspiration par et pour Christ aura son effet bienfaisant pour tous les membres d'une famille. Et maintenant, parlons justement de la famille. Tout pour Christ, pas seulement dans le couple, mais dans la famille. Tout pour Christ dans la famille. Nous allons lire encore à partir du verset 20 du chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Donc, les versets 20 et 21. Enfants, obéissez à tous vos parents, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voilà, ces deux versets très simples, mais très profonds en même temps. Ces deux versets visent les enfants en particulier et concernent l'obéissance et l'encouragement à leur égard. Abordons l'obéissance d'abord. Quant aux enfants, il ne s'agit pas de soumission, mais d'obéissance. Et la distinction est importante à mon avis. Je suis sûr qu'il y a certaines femmes qui sont contentes, même heureuses, que l'emphase ne soit pas mise sur l'obéissance stricte vis-à-vis de leur mari. La soumission est quelque chose de volontaire, alors que l'obéissance est quelque chose d'exigé. L'obéissance est mot-clé dans les relations enfants-parents. Il y a là contrainte et exigence pour les enfants, et les enfants qui entendent cela ne seraient pas peut-être contents d'entendre ça. Mais s'il y a exigence, puisqu'il y a obéissance, il s'agit d'obéissance, c'est parce que Dieu vise une démarche qui veut protéger les enfants d'erreurs graves. Un enfant, vous le savez tous, n'est pas né au monde détenant tout ce dont il aura besoin pour vivre, voire même survivre. Il est dépendant de ses parents, qui prévoient pour lui, pourvoient à ses besoins et protègent l'enfant afin qu'il grandisse dans de bonnes conditions. Pour les enfants de bas âge, l'obéissance contribue bel et bien à leur survie. Je m'attends par exemple à une obéissance stricte quand un de mes enfants est au bord de la route, par exemple. Ne bouge pas! Ne traverse pas! Donne-moi la main! Si un enfant n'y obéit pas, il risque d'être heurté par une voiture, au pire même, il peut perdre sa vie. Les parents ont tout droit d'exiger l'obéissance de leurs enfants si ce n'est simplement pour les garder en vie. pourrais citer d'autres exemples plus appropriés pour les préados, les ados. J'imagine que vous pourriez en citer aussi par vos expériences. Le point clé, c'est que l'obéissance d'un enfant à ses parents n'a pas but de contraindre l'enfant, mais de lui mettre sur la voie la plus propice à son épanouissement. Vu comme cela, c'est beaucoup plus raisonnable qu'il s'agit d'enfants jeunes ou moins jeunes. N'est-ce pas? En fait, je vous lis un passage parallèle dans l'Éphésiens encore, chapitre 6, versets 1 à 3, pour et qui résume bien ce point-là. Donc, chapitre 6 d'Éphésiens, les trois premiers versets. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Voilà, on a lu le verset 4 aussi, mais ça va être important dans la suite aussi. Voici deux promesses en relation directe avec une longue et heureuse vie qui est liée, sont liées plutôt à cette obéissance parents, enfants envers leurs parents. Les enfants ont intérêt d'obéir à leurs parents parce que c'est bienfaisant pour eux. Mais l'histoire continue quant à cette relation familiale clé. Le verset 21 en parle et vise le père en particulier, et ça c'est intéressant. Le but des parents vis-à-vis de leur enfant devrait toujours être l'encouragement. Cet objectif semble plus facile pour la mère que pour le père, surtout qu'elle ne figure pas dans l'avertissement que nous avons dans ce texte-là. Pourquoi? Pourquoi aucun avertissement au niveau de la femme? Je crois que c'est parce que c'est le père en qui Dieu a investi l'autorité sur toute la famille. Le rôle de la mère, elle est importante aussi. Mais si Dieu demande des comptes quant à l'état d'une famille, celui qui va devoir donner compte, c'est le père, selon les Écritures. Les autres auront leur compte à rendre, mais la responsabilité primale revient au père. Et là, il faut le remarquer. Avec cette charge vient l'autorité appropriée pour pouvoir s'en acquitter convenablement. Mais, comme toute autorité, il peut y avoir abus. Surtout qu'il s'agit du cœur de l'homme déchu. Voilà pourquoi les pères sont mis en garde. Le danger du père est d'user de son autorité pour faire du forcing, tout simplement. Le fruit du forcing, c'est l'exaspération. L'autorité n'est pas donnée pour en faire. Je suis père, par exemple, et je me reconnais quant à cette tendance de comportement, de vouloir faire du forcing. Je l'avoue. Je veux tellement que mes enfants se réalisent que parfois, même souvent, j'essaie de court-circuiter le processus qui va leur faire mûrir en insistant sur le comportement plus que l'attitude qui reste derrière. Quand je vois par exemple un comportement qui ne me plaît pas, je suis tenté d'exiger un changement par mon autorité. Je ne vise donc que le symptôme tandis que l'attitude reste. Et plus je me bats plus l'attitude se fige chez mon enfant et plus le comportement se manifeste à mon grande frustration. Et le cercle vicieux continue. Le résultat, c'est un enfant découragé qui est tenté de croire que notre amour pour lui est plus lié à sa performance qu'à notre désir ardent pour son bien. Si un enfant ne fait pas la part des choses, il risquera de se sentir exaspéré. Comment donc s'y prendre? Parce qu'il y a cet enjeu d'autorité et le vouloir vraiment que les enfants soient encouragés. Surtout pour le père. Il n'y a pas de solution magique, vous le savez tous, et le texte n'en donne pas non plus. Et ça, c'est intéressant. Mais un texte parallèle encore, dans l'épître aux Éphésiens, nous donne quand même des éléments importants, à mon avis. Il s'agit d'Éphésiens chapitre 6 et verset 4, que nous avons déjà lu, mais je vais lire encore une fois. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. L'éducation et les avertissements qui viennent du Seigneur nous sont donnés comme indication pour savoir où aller et comment y aller. Un des attributs du Seigneur à laquelle nous pouvons réfléchir, c'est celui de la patience de Dieu. Dans un mot, la patience de Dieu est chose clé dans notre salut. Pierre, l'apôtre, dit ceci: « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Lorsque un père ne fait pas preuve de patience, il a tendance d'user de son autorité pour effectuer un changement trop vite qui pourrait frustrer son enfant. Mais lorsqu'il donne le temps à son enfant, dans la durée, avec amour et patience, l'éducation et les avertissements qu'il donne au fur et à mesure des années seraient, à mon avis, beaucoup plus efficaces. Parce qu'il y a ce principe de patience qui mène au salut. Du coup, le changement qu'on souhaite viendra de l'enfant lui-même et sera authentique. Une bonne relation entre parents et enfants, surtout entre le père et ses enfants, dépend d'une bonne compréhension, en fin de compte, de l'évangile où l'amour et la patience de Dieu en Christ donnent l'espérance du salut et mènent à un changement à la fois réel et bienfaisant. Il nous reste un dernier domaine à traiter dans ce texte qui touche au travail. Peut-être vous n'êtes pas marié, donc l'exhortation sur le couple vous convenait pas. Et puis l'exhortation concernant les enfants, en fait, vous étiez bon, c'est intéressant, mais j'ai pas d'enfants. Mais cette fois-ci, au moins, il y a quelque chose pour vous si vous travaillez. Dans la plupart, je pense, le font. Tout pour Christ au travail. Verset 22. Du chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Et puis jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Esclaves, verset 22. Obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Tout pour Christ au travail. Paul s'adresse aux esclaves. L'exhortation de Paul mérite un mot sur la pratique, une pratique qu'il ne condamne ni l'approuve. Écoutez un extrait d'un commentaire que j'ai trouvé sur l'esclavage et la façon dont il était vu du temps de Paul. Et je trouve intéressant. Je crois que vous le trouverez intéressant aussi parce que, et même correctif, surtout que notre regard est certainement influencé quand nous pensons à l'esclavage, influencé et parfois même faussé par les pratiques liées au trafic d'esclaves au 8e siècle, 18e siècle et 19e siècle, et même de sa pratique actuelle de nos jours dans certains pays. Écoutez cette citation. L'esclavage, avec tous les mots associés, a été non seulement accepté au temps ancien, mais aussi considéré comme une institution fondamentale, voire indispensable à la société civilisée. Plus de la moitié des gens dans les rues des villes importantes du monde romain étaient esclaves. Plus de la moitié des gens. En plus, ceci était le statut de la majorité des personnes dites professionnelles. comme par exemple enseignants, médecins, aussi bien que des artisans et des simples serviteurs. Quant au droit, les esclaves en étaient totalement privés, considérés comme la propriété de leur maître et dont la fonction ne servait qu'au confort, convenance et plaisir de ceux à qui ils appartenaient. Paul traite le devoir des esclaves dans le contexte de la famille parce que les esclaves en étaient considérés comme faisant partie du foyer. Donc cette citation pour vous donner un petit peu plus de compréhension du contexte de l'esclavage au temps. Plus que la moitié des personnes étaient des esclaves et ce sont des professionnels en plus. Cette courte citation nous aide à comprendre le lien entre l'esclavage et les vocations que nous considérons normales aujourd'hui. Il n'était pas hors de commun d'être un professionnel et pourtant d'être esclave. Je crois que ceci nous donne l'occasion de faire une application actuelle de ce texte, même si nous ne sommes pas esclaves. Et pourtant, combien de nous nous trouvons avec des difficultés au travail semblables à celles qu'ont connues des esclaves? Il suffit d'un patron avec des attentes irréalistes ou déraisonnées, d'un collègue qui tire un grand plaisir à nous frustrer pour des raisons qui lui sont propres, ou d'une charge qui s'alourdit alors que les effectifs pour y faire face ont diminué. Ce sont des réalités de nos jours. Lorsque Paul s'adresse aux esclaves, il les exhorte à l'obéissance. À l'obéissance et à la sincérité. En fait, il leur dit de faire tout avec tout leur cœur. Le but de Paul n'est pas la révolution, mais ne croyez pas que ce soit pour un seul instant que ses propos ne sont pas révolutionnaires. Lorsqu'il dit que quel que soit votre travail, fais-le de tout votre cœur, il est en train de dire que même des contextes de travail le plus dur et difficile pourraient devenir des occasions de plaire à Dieu et lui rendre gloire. Il n'y a pas de vocation de plus noble ou de salaire comparable. Lorsque ce qui est fait pour Dieu, la valeur à ses yeux est inestimable. Mais ne manquez pas l'avertissement non plus. Être un bon employé, ce n'est pas une question de simple apparence lorsque le patron jette un œil sur vous, mais une question aussi de l'être surtout que le contexte est difficile. Dieu sera le juge et bien que ce soit tentant, votre grade inférieur ne vous donne pas le droit de retenir votre dû vis-à-vis de vos supérieurs. Et votre position basse sur le rang ne donne pas d'excuse d'agir injustement. Peut-être il y a une application pour les relations syndicat-patronat, non? Paul s'adresse au maître aussi. Paul a pris 4 versets pour exhorter les esclaves alors que pour les maîtres, il ne leur adresse qu'un seul. Est-ce plus simple de les exhorter parce que leur sort est moins pénible? Peut-être. En tout cas, on sait que 2 choses leur sont essentielles. D'abord, qu'ils veillent à accorder ce qui est juste et équitable à ceux qui sont sous leur autorité. Deuxièmement, qu'ils sachent à qui ils vont devoir rendre compte. Les tentations d'abuser son pouvoir lorsqu'on est de haut grade n'est pas négligeable, ce qui confirme l'expérience et l'histoire. Aucun maître n'est plus grand que le maître à qui tous doivent rendre compte. Quand il s'agit de l'injustice, Dieu ne montre pas de favoritisme. Une position haute sur le rang ne donne pas non plus d'excuse d'agir injustement, ce qui est malheureusement le cas beaucoup. En fin de compte, une bonne relation quant à son travail dépend encore une fois d'une bonne compréhension de l'Évangile. C'est Jésus-Christ qui était Dieu lui-même, souverain et élevé, qui s'est humilié en prenant une forme de serviteur afin de suivre le chemin de la croix. De quelle manière a-t-il poursuivi cette œuvre, ce travail? L'Épître aux Hébreux nous dit ceci. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, grâce à cela, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Un mot de conclusion. Tout pour Christ de tout cœur. Tout pour Christ de tout cœur. C'est un but noble pour la vie chrétienne. Mais d'où vient donc la motivation pour cette noble poursuite? Elle vient d'une bonne compréhension de l'Évangile, tout simplement. Où l'amour et le sacrifice de Christ inspirent le vouloir et le faire. Elle vient d'une bonne compréhension de l'Évangile où la patience de Dieu en Christ nous donne l'espérance du salut et mène à un changement réel et bienfaisant. Elle vient aussi d'une bonne compréhension de l'Évangile où l'humilité du Seigneur nous sert d'exemple par excellence de l'attitude divine qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Regardons donc à Christ, que nous suivions l'exhortation divine, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Prions. Seigneur, ces versets sont des versets qui touchent à des choses très pratiques, que ce soit dans le couple, dans la famille ou au travail. Seigneur, tu as pourvu tout ce dont nous avons besoin pour vivre de manière vraiment à ta gloire. Et l'Évangile nous montre le chemin, Seigneur. L'Évangile nous montre combien tu nous as aimés et combien nous pouvons faire tout ce que tu nous demandes par l'amour. Seigneur, nous ne sommes pas capables, mais ton Évangile nous transforme de jour en jour afin que cet amour puisse grandir, afin que ce désir ardent de te plaire et de faire bien autour de nous puisse se réaliser. Merci de nous accompagner dans ces choses pratiques, pas seulement aujourd'hui, mais dans cette semaine et dans toute la vie, pour ta gloire, pour que le monde puisse voir la transformation que tu désires chez les uns et les autres, pour ta gloire. Nous te remercions, Seigneur, par ton esprit, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.